Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui un nouveau fichier. Le fichier qui contient les commentaires des Pères de l'Église sur l'Évangile selon Saint Jean, chapitres 11 à 15. Je pense qu'il me faudra encore à peu près une trentaine de cours à raison d'un cours d'une heure par semaine pour terminer Saint Jean. Donc je pense avoir, si Dieu veut, terminé les quatre évangiles d'après les pères de l'Église à la fin de l'année. Après, nous verrons. J'ai plusieurs projets, soit de vous donner un cours sur le magistère de l'Église, les grandes encycliques pontificales du 19e et du début du 20e, jusqu'à la mort du pape Pie XII. Soit faire un cours de théologie à partir du livre de théologie de Zubizarreta, que j'aime beaucoup. Nous verrons chaque chose en son temps. Donc, sur ce nouveau fichier, qui contient donc les chapitres 11 à 15 de Saint Jean, nous en sommes à la page 1. Donc, Saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 5. Voilà le texte. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, le bourg de Marie de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum. Et puis il lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, qui était malade, était son frère. Ses sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, voici que celui que vous aimez est malade. » Entendant cela, Jésus leur dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et Marie, sa sœur et Lazare. Première chose à noter, c'est qu'encore une fois, on voit très bien que chaque âme est différente. Dieu aime toutes ces créatures raisonnables, mais il y en a qui l'aiment davantage. On voit très bien ça avec les apôtres. Dieu aime tous les apôtres, c'est lui qui les a choisis. Mais il aime tout particulièrement Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Et Saint-Jean est toujours placé à part, l'apôtre que Jésus aimait. Ça donne presque l'impression que Jésus n'aimerait pas ses autres apôtres, ce qui est complètement faux. Mais on voit la même chose ici. Avec Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe et Saint-Lazare, leur frère, notre Seigneur Jésus-Christ avait une affection particulière, profonde, pour cette famille, la famille de Marthe, de Marie-Madeleine et de Lazare. Donc Dieu a parfaitement le droit d'aimer certaines âmes plus que d'autres. Il n'y a pas d'égalité devant Dieu. Vous voyez, je pense qu'un des mots révolutionnaires qui a fait le plus de mal, il y a le mot liberté, bien sûr, au nom de la liberté que d'erreurs n'ont pas été commises. Il y a aussi le mot d'égalité, parce que c'est rentré dans les mœurs. Beaucoup de catholiques même sont persuadés que tous les hommes doivent être égaux. Or, Dieu n'a jamais voulu l'égalité, mais l'inégalité dans sa création. On le voit très bien dans la création, même des êtres non raisonnables. Il y a des inégalités. Il y a bien sûr encore plus d'inégalités dans la création des êtres raisonnables. Les anges ne sont pas tous au même niveau. Il y a différents cœurs des anges. Il y a 9 cœurs des anges et les séraphins, les chérubins sont au-dessus des autres. De la même façon, parmi les gens qui habitaient la Palestine, autant notre Seigneur Jésus-Christ, bien notre Seigneur Jésus-Christ a un amour tout particulier pour Marthe, Marie, sa sœur et Lazare. Alors voyons d'abord le sens mystique de Béthanie. Béthanie, c'était un bourg pas très loin de Jérusalem. C'est là où habitaient Marie-Madeleine, Marthe et Lazare. Donc Béthanie en hébreu, d'après les pères de l'Église, représente plusieurs choses. C'est la maison de l'affliction, la maison de l'obéissance et la maison de la réponse, disent les pères. D'abord la maison de l'affliction, selon la version syriaque, et cela correspond aux circonstances car la maladie et la mort de Lazare affligeaient toute la famille. Deuxièmement, c'est la maison de l'obéissance. On voit très bien l'obéissance toute particulière de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte Marthe à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la maison de la réponse, car le Christ entendit la prière de Marthe et de Marie, intercédant pour la vie de Lazare. Alors, il y a une dispute entre les pères au niveau de Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine avait oint le Christ deux fois, certains disent même trois fois. Elle était sans aucun doute la même personne que Sainte Marie-Madeleine, bien que certains pensent qu'elles étaient deux ou même trois femmes différentes. L'Église s'est jamais prononcée sur le sujet, mais strictement parlant, c'est bien Sainte Marie-Madeleine qui a lavé les pieds de notre Seigneur avec des parfums. Il a d'abord une fois les pieds et une fois la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, juste avant la Passion. Donc Sainte Marie-Madeleine avait une place toute particulière dans le cœur de Dieu. Ces trois frères et sœurs ont un rôle très important dans l'apostolat, le premier apostolat missionnaire de l'Église après l'ascension de notre Seigneur, puisque vous savez que les trois membres de cette famille ont été placés sur un bateau par les Juifs qui voulaient se débarrasser de la famille et de tous leurs amis. Ils ont mis tout ce beau monde sur une barque, ont poussé la barque loin du rivage, sans eau, sans nourriture, sans rame, sans mer, sans voile, pardon. En espérant que ils allaient tous mourir de faim et de soif. Et Dieu a fait un miracle, il a poussé le bateau à travers toute la mer Méditerranée, il a envoyé un ange pour pousser le bateau. Et le bateau est atterri au Sainte-Marie-de-la-Mer, près d'Aix-en-Provence, près de Marseille. Là, Saint Lazare est devenu le premier évêque de Marseille. Sainte Marie-Madeleine va aller faire pénitence pendant une trentaine d'années à la grotte de la Sainte-Baume, près d'Aix-en-Provence. Et Sainte Marthe va aller à Tarascon où elle va fonder le premier couvent. Donc la foi catholique est arrivée dans le sud de la France très très tôt. Donc on est au milieu, même avant le milieu du premier siècle. On voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ avait donné à ces trois grands saints le don de faire des miracles de façon extraordinaire. Ainsi par exemple, lorsque Sainte Marie-Madeleine est arrivée à la grotte de la Sainte-Baume, la grotte était infectée de vipères et d'un dragon, nous dit l'Écriture, nous dit la tradition de l'Église. Et Monseigneur Gaume explique très bien, un très bon historien, qui explique très bien que ces dragons, il y en a encore quelques-uns, étaient en fait des anciens dinosaures, les derniers des dinosaures. Et ce dragon, évidemment, a effrayé considérablement Sainte Marie-Madeleine, qui a appelé au secours notre Seigneur. Et l'ange est arrivé pour chasser toutes les vipères et le dragon. Les vipères sont précipitées dans le vide parce que la grotte est en pleine falaise. Le dragon qui avait été chassé est donc parti et est allé porter la malédiction à la ville qu'on appelle aujourd'hui Tarascon. Et c'est là où vous venez d'arriver. Vous arrivez juste après la sœur de Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe. Et la ville était très impressionnée par cette jeune fille qui venait de Palestine et qui voyait cette jeune femme prier tout le temps, annoncer un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et la ville était complètement paniquée par l'existence de ce dragon juste à côté qui dévorait les animaux et de temps en temps les hommes. Et donc, ils ont fait un marché avec Sainte Marthe. Sainte Marthe leur a dit, je vais vous délivrer de ce dragon, mais une condition, c'est que vous me promettiez, si je vous délivre du dragon au nom du Dieu que je sers, que tous vous allez recevoir le baptême. Et ils ont promis. Et c'est ce qui s'est passé. Sainte Marthe est alors sortie, toute la ville était sur les remparts, pensant qu'elle allait être dévorée par le dragon. Et Sainte Marthe est sortie, elle a pris sa ceinture, elle a mis sa ceinture au-dessus de la tête du dragon. Le dragon s'est mis à la suivre comme un petit toutou, un petit chien. Elle a ramené le dragon près du rempart et à ce moment-là, elle a dit aux hommes, maintenant vous pouvez descendre, ne craignez rien et vous pouvez le tuer. Ils ont tué la bête et ils ont tenu parole, toute la ville est devenue catholique. Et comme on appelait ce dragon la Tarasque, la ville a pris le nom de Tarascon. Donc, vous voyez l'importance de la vie de Sainte Marie-Madeleine. Je conseille beaucoup à ceux qui sont intéressés, je vous l'ai déjà dit, je crois, lisez attentivement le livre du Monseigneur Gaume qui s'appelle Les biographies évangéliques en deux volumes, qui a été réédité, je crois, par les éditions Saint-Rémy en un seul volume. C'est magnifique, c'est plein de preuves, toutes les preuves historiques sont là. N'écoutez pas ce prêtre ce prêtre traditionnaliste, célébracantiste même, qui prétend que Monseigneur Gaume était un hérétique, un fidéiste. C'est totalement faux. C'était un grand ami du pape Pie IX lui-même. Et il est au contraire un auteur très sûr, un historien excellent. Et vous pouvez lire vraiment sans aucune inquiétude tous les livres de Monseigneur Gaume. Alors, cette demande de Sainte Marthe et des deux sœurs de Sainte Marie-Madeleine aussi montre plusieurs choses d'après les pères. D'abord, ça montre à la fois des choses positives et des choses négatives. Il y a une espèce de reproche fait à notre Seigneur au verset 3. Ses sœurs, donc Marthe et Marie-Madeleine, envoya donc dire à Jésus, Seigneur, voici que celui que vous aimez est malade. Elles vont presque reprocher à notre Seigneur Jésus-Christ de ne pas être venu tout de suite guérir Lazare. On va le voir un peu plus loin. Au verset 21, Marthe dit donc à Jésus, Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Il y a un peu un aspect de reproche dans ces paroles. Et en même temps, il y a une grande foi, une grande sincérité, un grand amour, une grande résignation. Parce que elles acceptent, même si elles ne comprennent pas pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu immédiatement dès qu'il a appris que Lazare était malade, elles se soumettent à la volonté du bon Dieu. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Donc d'abord, disent les pères, l'attitude des deux sœurs montre une grande foi, car elles ne disent pas, venez vite de peur qu'il ne meure avant que vous arriviez. Elles croient que le Christ peut guérir à distance et même ressusciter un mort. D'ailleurs, on le voit dans la parole, elles ne disent pas, Seigneur, venez vite guérir notre frère parce qu'il est malade. Elles disent simplement, Seigneur, voici que celui que vous aimez est malade. Donc il y a un abandon à la volonté divine. Seigneur, notre frère est malade, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous pouvez aussi faire beaucoup de choses de loin. Vous n'êtes pas obligé de venir. Faites ce qu'il vous plaira, par avance, nous acceptons. Elle croit donc que le Christ peut guérir à distance et même ressusciter un mort. Et une grande sincérité aussi est manifestée par les deux sœurs, car elles font une totale confiance au Christ, sachant qu'il trouvera une solution. Elles ne multiplient pas les demandes et les paroles. Elles se soumettent à la volonté divine. Puis un grand amour, celui que vous aimez est malade. Car le Christ aimait cette famille d'une façon toute spéciale. Le Christ les aime et elle l'aime. Et c'est fait pour celui qui aime d'annoncer le danger dans lequel est l'être aimé, car l'amour dépasse toutes les prières. On voit que malgré cette amitié, cet amour tout particulier qu'avait notre Seigneur pour cette famille, les sœurs ne sont pas trop insistantes. Donc cela représente, disent les pères, également une grande résignation, se résignant totalement à la providence de Dieu, à son amour pour leur famille. Ainsi leur prière fut très efficace. Donc les prières sont efficaces sous les conditions qu'elles viennent d'une grande foi, d'une grande sincérité, d'un grand amour et qu'elles soient faites avec résignation. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Si les prières sont égoïstes ou si elles traduisent un manque de confiance en Dieu, le bon Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Alors, Saint Lazare représente le pécheur qui est aimé par le Seigneur, car il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Les deux sœurs, au contraire, représentent les saints ou les bonnes pensées, ceux qui prient pour être délivrés des péchés. Donc il y a le pécheur et ceux qui intercèdent pour le pécheur. Donc Lazare représente celui qui a perdu le bon Dieu, et les deux sœurs représentent celles qui vont venir intercéder auprès de Dieu pour guérir la personne qui a perdu l'amour du bon Dieu. Jésus aimait tant Lazare et ses sœurs qu'à leur demande, il ressuscita Lazare de la mort, bien qu'il sût que la résurrection de Lazare serait la cause de sa croix et de sa mort. La vie de Lazare fut la cause de la mort du Christ. Pourquoi? Parce que on voit très bien, juste après la résurrection de Lazare, que... Attendez, je retrouve le passage. Juste après la résurrection de Lazare, on verra très bien que les pharisiens vont se regrouper. Au verset 46. Donc le mort vient de sortir. Notre Seigneur a ressuscité brillamment Lazare, publiquement, un miracle extraordinaire. Le mort sorti en les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors, il y a deux phrases à ce moment-là, ça c'est très important à comprendre. Première phrase, verset 45, beaucoup d'entre les Juifs qui étaient auprès de Marie et de Marthe, qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus, crurent en lui. Deuxième phrase, verset 46, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur disent ce qu'avait fait Jésus. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite Lazare de façon extraordinaire, publique, un miracle extraordinaire. Bien, certains vont se convertir et d'autres, non seulement ne vont pas se convertir, mais vont utiliser le miracle qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ pour le condamner. Et ceci répond à une objection très fréquente. Les gens disent tout le temps, vous me savez, pourquoi est-ce que le bon Dieu ne vient pas pour faire des grands miracles? Pourquoi il n'y a plus de grands thaumaturges? S'il y avait ces grands thaumaturges, comme il y avait au début de l'histoire de l'Église, les gens se convertiraient, mais malheureusement non. Parce que l'orgueil de l'homme moderne est arrivé à un tel degré que même s'il y avait des grands miracles, les gens ne se convertiraient pas. Certains se convertiraient, mais la plupart non. On voit très bien, il y a une telle haine de Dieu, surtout chez nos politiciens de droite comme de gauche, d'ailleurs ils sont tous pas à mettre dans le même sac à peu de choses près, on voit très bien chez nos politiciens cette haine farouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc même s'ils sont témoins d'un miracle, ils ne se convertiront pas et utiliseront le miracle comme un moyen d'attaquer notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela que les pères disent que la vie de Lazare fut la cause de la mort du Christ. Les miracles ne détruisent pas la liberté, ne détruisent pas le libre arbitre. Même si je vois des grands miracles, si mon cœur n'est pas droit devant Dieu, si mon intelligence n'est pas droite devant Dieu, rien ne se fera. On le voit très bien aussi, par exemple, pendant la Passion, avec Pilate, avec Hérode, avec tous ceux qui vont obtenir la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ, soit de façon active, de parler comme les Juifs, soit de façon passive, comme Pilate, qui est responsable passivement de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il aurait pu faire quelque chose, qu'il n'a rien fait. Et on le voit très bien, comment, malgré tous les miracles qu'avait fait notre Seigneur Jésus-Christ, malgré toutes les prophéties qu'il avait accomplies dans l'Ancien Testament, eh bien, ils ne se convertissent pas. Ceci doit nous maintenir dans l'humilité. Sans la grâce du bon Dieu, eh bien moi aussi je peux perdre la foi, comme les pharisiens. Moi aussi je peux me retourner comme tous ces gens qui sont retournés au moment du Jeudi Saint et me retrouver sous le balcon de Ponce Pilate en train de hurler qu'il soit crucifié. N'oubliez pas que ceux qui étaient sous le balcon de Ponce Pilate dans la forteresse Antonia à Jérusalem et qui hurlaient qu'il soit crucifié pour demander la libération de Barabbas à la place de celle de notre Seigneur Jésus-Christ sont exactement les mêmes personnes qui... dans l'après-midi ou la matinée du dimanche des Rameaux, était en train d'accueillir avec des grands cris de joie et d'allégresse notre Seigneur Jésus-Christ qui arrivait et il le traitait comme roi. Hosanna, fils de David, le roi d'Israël. Ils avaient même coupé des branches d'arbres, ils avaient même mis leurs vêtements sur le passage de notre Seigneur Jésus-Christ et pourtant, quelques heures après, ben, ils vont le trahir. Et c'est un peu notre histoire. Vous voyez, on retrouve ça ici un petit peu ici dans l'histoire de la mort de Lazare. Avançons avec les versets 6 à 10. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta cependant 2 jours encore dans le même lieu. Il dit ensuite à ses disciples, retournons en Judée. Ses disciples lui dirent, maître, les Juifs cherchaient récemment à vous lapider, vous retournez là? Page 2. Jésus répondit, le jour n'a-t-il pas 12 heures? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il se heurte, parce qu'il n'a pas de lumière en lui. Alors, un passage assez bizarre. Qu'est-ce que veut dire cette allusion aux 12 heures du jour, qui arrive là-dessus comme un peu des cheveux sur la soupe? Eh bien, voilà ce que disent les pères. C'est pour signifier qu'il est lui-même le jour qu'il a choisi 12 disciples. Donc les 12 disciples, les 12 premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les 12 apôtres, représentent ces 12 heures du jour. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va avancer dans le temps par l'intermédiaire des 12 apôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il va luire, pas par lui-même seul, il va luire aussi par l'intermédiaire des disciples et des apôtres qui vont aller le représenter. Donc il y a deux choses, il y a la lumière du monde et il y a l'obscurité du péché, l'obscurité du démon. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait l'exercice Saint-Ignace, les signes par lesquels on peut reconnaître la présence du démon auprès d'une âme, le premier c'est justement la tristesse et l'obscurité. Alors qu'au contraire, si c'est le bon ange qui nous parle, on reconnaît le bon ange par la joie et la lumière. La lumière. Lorsque le Saint-Esprit rentre dans une âme, il éclaire. Donc ça représente donc ces 12 heures du jour. Le jour n'a-t-il pas 12 heures ? Verset 9. En parlant ainsi, Jésus avait en vue, non point Judas, mais son successeur, car après la chute de Judas, Matthias lui succéda, et la perfection du nombre 12 demeura dans son intégrité. Notre Seigneur Jésus-Christ va garder 12 apôtres, même après la trahison de Judas. Il va en choisir un autre, Saint Matthias va être élu pour remplacer Judas, puisqu'il était très important qu'il y ait justement ces 12 apôtres, et que celui qui remplaça Judas soit quelqu'un qui avait connu notre Seigneur. Un apôtre, c'était quelqu'un qui avait été là, qui avait vu de ses yeux, vu la passion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les heures sont éclairées par la lumière du jour, qui est notre Seigneur, il est la lumière du monde, et c'est par la prédication des heures que le monde est amené à croire à celui qui est le jour. Suivez-moi donc si vous ne voulez pas vous heurter, car si quelqu'un marche pendant le jour, il ne se heurte point. Donc, les aiguilles, si vous voulez, qui avancent à travers les 12 heures, représentent le caractère apostolique de l'Église. La lumière du monde, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, ne se contente pas d'éclairer un endroit fixe en Palestine, mais va à travers toute la Palestine, après quitter la Palestine, pour aller illuminer le monde entier. Cela représente évidemment le rôle des apôtres, le rôle des disciples, qui sont la lumière du monde aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde, la celle de la terre, et nous devons être aussi la lumière du monde et celle de la terre. La différence, c'est que Dieu est la lumière du monde par lui-même, et nous sommes la lumière du monde de façon indirecte, pas de façon directe. Nous sommes de même, nous ne sommes pas le sel de la terre, mais nous participons au sel de la terre. Donc nous sommes la lumière participée, alors que notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui est la lumière même. On peut prendre une comparaison très moderne pour expliquer ce que je veux dire. C'est une comparaison tout à fait imparfaite, mais c'est pour expliquer simplement. Si vous voulez, notre Seigneur Jésus-Christ est comme la prise électrique qui est dans la maison. Et c'est lui qui amène le courant dans la maison. Et l'apôtre est comme celui qui branche cette prise électrique déjà préexistante, qui va brancher une ampoule, un fil avec une ampoule, pour que la lumière puisse jaillir dans la pièce. Mais s'il n'y a pas auparavant, avant la lumière, avant que l'ampoule ne soit branchée sur la prise, s'il n'y a pas une prise préexistante, on ne peut rien faire. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc la lumière du monde. Et s'il le dit bien, c'est pour ça qu'il dit, il parle du jour. Le jour, c'est le symbole de la lumière par rapport à la nuit. C'est pour ça qu'il dit que celui qui marche pendant le jour, c'est-à-dire qui marche sous la lumière du Saint-Esprit, ne se heurte pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. La lumière de ce monde, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean Chrysostome dit que celui qui a la conscience pure de tout crime n'aura rien à craindre d'aucune embûche. Celui qui fait le mal en souffrira la peine. Ne craignons donc point, car nous n'avons rien fait qui mérite la mort. Ou bien encore, celui qui marche à la lumière extérieure de ce monde est en pleine sécurité. À plus forte raison, celui qui marche avec moi à la condition qu'il ne s'écartera jamais de moi. C'est-à-dire, tant que je reste connecté à la prise électrique qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, ma lumière va jaillir dans l'obscurité. Et je vais être un participant de la lumière du monde. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Nous sommes participants à cette voie, à cette vérité et cette vie. Nous ne pouvons en aucun cas dire « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Je participe à cette voie, je participe à cette vérité, je participe à cette vie. Ce n'est pas la même chose. Alors il y a un sens mystique derrière cette phrase. Celui qui suit le jour, c'est-à-dire le soleil et la lumière de la foi et de la grâce, c'est notre Seigneur. Celui qui suit notre Seigneur ne trébuche et ne tombe pas dans le péché. Mais celui qui marche dans la nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité de l'ignorance et du péché, de la concupiscence, il tombera rapidement. Donc il y a deux façons de progresser. Soit je progresse avec la lumière de l'évangile, la lumière de la foi, la lumière de la grâce sanctifiante, la lumière donnée par les sacrements, et à ce moment-là, je peux sortir du péché, de l'obscurité du péché, et je vais à ce moment-là commencer à briller comme un soleil et marcher dans la lumière de ma foi. Soit au contraire, je rejette la lumière du monde et je vais à ce moment-là me retrouver dans la nuit. C'est ma lampe qui va être déconnectée de la prise et tout va s'éteindre. Je vais me retrouver dans l'obscurité de l'ignorance, de la concupiscence et du péché. Et je vais tomber rapidement. Donc on a besoin de cette lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière et notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique lumière. Il n'y a pas d'autre lumière que notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit « Je suis la lumière du monde », sous-entendu, je suis la seule lumière. Quand il dit « Je suis le sel de la terre », il est l'unique sel. Quand il dit qu'il est la porte de la bergerie, il est l'unique porte. Personne ne peut être sauvé sans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, autre symbole expliqué par les pères, de même que les 12 heures changent au cours de la journée et que le vent change avec elles, ainsi les esprits des Juifs changent facilement. Ceux qui haïssaient le Christ peuvent maintenant l'aimer et le recevoir. Donc les 12 heures qui s'égrènent au cours de la journée changent constamment. On n'est pas 2 secondes de suite exactement à la même heure. À chaque fois, il y a une différence parce que le temps avance. Mais ça représente, nous disent les pères de l'Église, ceux qui tergiversent constamment, qui n'ont pas d'idée fixe sur la vérité et qui change facilement, qui passe trop facilement de l'amour à la haine et de la haine à l'amour du Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ veut des gens qui soient stables dans leur amour. C'est facile de donner un coup de collier pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ et éventuellement faire une bonne confession. Mais il faut aussi que cette confession permette un changement complet de vie. Vous voyez, quand je vois parfois des gens qui font des kilomètres et des kilomètres pour venir se confesser. Je suis assez impressionné, mais je vérifie toujours ça. Est-ce qu'il va y avoir un changement de vie après la confession? Régulièrement, je reçois des coups de téléphone, parfois de gens qui sont à 200, 300 kilomètres. C'est la même, je vous téléphone parce que j'ai entendu parler de vous par le site, Internet Madame Marie, et j'ai entendu vos cours, et je voudrais pouvoir faire une bonne confession générale. Est-ce que je peux venir me confesser? Je dis, mais bien sûr, c'est lui qu'on se met d'accord. Pour un jour, je demande, mais où habitez-vous? Parfois, ils habitent à 300, 400 km de chez moi. Je dis, mais attention, moi j'habite près d'Albi, vous habitez très loin. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un de la région d'Issoire qui m'a téléphoné, qui a fait toute la route pour venir se confesser. Je suis assez impressionné quand je vois des actes de foi, parce qu'il faut vraiment la foi pour faire des choses comme ça. Trouver un prêtre, faire 400 km, 350 km pour trouver un prêtre et se confesser, il faut quand même une foi forte. Vous voyez? En général, quand ces gens font des kilomètres et des kilomètres comme ça, ça se traduit par un changement de vie, heureusement d'ailleurs. Vous voyez? Donc ce n'est pas la confession en tant que telle qui dit tout, mais le changement de vie provoqué par la confession. Donc ces heures qui changent représentent, si vous voulez, le caractère changeant de l'esprit humain qui peut passer trop facilement de l'état de grâce à l'état de péché. Deuxième point noté par les pères, le Christ est le soleil et le jour. Et nous devons l'accompagner pendant 12 heures. Il ne s'agit pas simplement de suivre notre Seigneur Jésus-Christ pendant quelques minutes, il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ pendant toute la rotation du soleil autour de la terre. Ça veut dire qu'il faut suivre tout le temps. Donc de même qu'il faut suivre du regard les aiguilles qui vont avancer au cours de la journée et passer de la première heure à la dernière heure, et bien de la même façon, il faut que nous aussi, nous accompagnons notre Seigneur Jésus-Christ, nous accompagnons le soleil de justice qui est notre Seigneur Jésus-Christ pendant toute la journée. Il ne s'agit pas simplement de l'accompagner pendant quelques heures, ce n'est pas suffisant. Il faut l'accompagner de façon avec fidélité pendant tout le temps. Troisième point, quelques heures restent dans la vie de Christ et il doit les utiliser pour prêcher aux Juifs. Mais la nuit arrivera bientôt, c'est-à-dire sa passion et sa mort. La nuit est le symbole de la colère et des calamités. La nuit est le symbole du péché. La nuit est le symbole du démon, c'est pour ça que le démon est toujours dans le noir, dans l'obscurité. Cette obscurité représente justement la laideur, la mondanité du monde moderne, le bruit du monde moderne. Et au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ représente la lumière qui va percer cette nuit. Mais cette nuit représente aussi, d'après certains autres pères, la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. On a l'impression, pendant la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, au Vendredi Saint sur la croix, on a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ a perdu sa lumière, qu'il cache sa divinité. En fait, il la cache, c'est vrai. Mais la divinité, même si elle est cachée, apparemment cachée pendant la passion, elle ne disparaît pas, elle est toujours là. À tel point que notre Seigneur Jésus-Christ garde sa vision hypostatique, l'union hypostatique, même pendant les pires affres de la passion. Il continue de voir Dieu, et il est Dieu tout en souffrant comme homme. Alors comment est-il possible pour la même personne à la fois de voir Dieu, à la fois de souffrir des tortures épouvantables? Ça, c'est tout le mystère de la Sainte Trinité et la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, par son incarnation parmi nous, dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie, est vraiment Dieu et vraiment homme. Et comme il est Dieu, il peut nous pardonner, mais comme il est homme, il peut aussi souffrir, donc il a réellement souffert. Donc la nuit ici dont il parle, s'il marche pendant la nuit, il se heurte parce qu'il n'a pas de lumière en lui. Cette nuit dont il parle représente la passion et sa mort. On a l'impression que pendant la nuit de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus rien pour nous guider. Or, notre Seigneur Jésus-Christ reste Dieu, même dans la nuit de la passion, de la mort et même du tombeau. N'oublions pas que dans le tombeau, pendant 36 heures, le corps va rester dans le tombeau. Depuis la mise au tombeau du Vendredi Saint jusqu'à la résurrection au jour de Pâques. Donc le corps va rester dans le tombeau, séparé de l'âme, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement mort. Il ne peut pas y avoir de mort véritable sans séparation entre le corps et l'âme. Donc le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ sont séparés, mais le corps qui va rester dans l'obscurité du tombeau pendant 36 heures est toujours uni à la divinité, attention. De même que l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, séparée du corps, est toujours unie à des yeux de divinité. Et cette âme unie à divinité vont descendre dans les enfers pour libérer les justes de l'Ancien Testament qui attendaient depuis des milliers d'années. Alors, autre remarque des pères. Pendant la journée, chacun peut marcher facilement car il voit les obstacles. De même, la vie du Christ est comptée par Dieu le Père, et le Fils doit effectuer les œuvres pour lesquelles il a été envoyé. Tant que le jour brille, le Christ n'a pas à craindre les Juifs, car il n'est pas tué avant l'heure, c'est-à-dire avant l'arrivée de la nuit. Ça, on le voit très bien dans une partie de la Passion. Juste après la messe de notre Seigneur Jésus-Christ, il a ordonné prêtres ses apôtres, il a consacré évêques ses apôtres, et puis il va renvoyer Judas, qui a décidé de le trahir. Notre Seigneur le sait, puisqu'il est Dieu qui sait tout. Ce que tu as à faire, fais-le vite, dit-il. Et Judas sortit. Il y a ce texte dans l'Évangile, il est dit, il faisait nuit. Pour bien montrer justement que la nuit dans laquelle sort Judas représente le péché. Il s'est donné au démon. Le démon est devenu maître de son âme. Et évidemment, à ce moment-là, il va plus pouvoir rien faire par lui-même, et il va être changé de maître. Après s'être donné à notre Seigneur Jésus-Christ, il va se donner au démon. Donc c'est la même chose pour nous. Tant que notre Seigneur Jésus-Christ brille dans notre âme par la grâce sanctifiante, nous n'avons pas à craindre le péché et l'obscurité. Mais si notre Seigneur Jésus-Christ quitte notre âme par le péché, plus exactement, si j'oblige notre Seigneur Jésus-Christ à quitter mon âme à cause du péché dans lequel je suis tombé, mon âme va tomber dans l'obscurité. Quand je suis dans l'obscurité, je ne vois plus rien, je ne sais plus où je vais. Continuons d'avancer avec les versets 11 à 16 du chapitre 11 de Saint Jean. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ses disciples lui dirent donc, Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. Or, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit donc alors clairement, Lazare est mort. Et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, dit alors aux autres disciples, allons-y, nous aussi, et mourons avec lui. Nous passons à la page 13. Je n'ai pas trouvé beaucoup à dire dans les pères sur ce passage. Alors, ici, donc, les pères font remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ parle de l'assoupissement du sommeil pour Lazare. Il va le dire au verset 11, Lazare, notre ami, dort. Donc, les pères se sont posés la question de savoir pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ parle d'un endormissement de Lazare alors qu'il est véritablement mort. Tout simplement parce que la mort des chrétiens est un sommeil. Pourquoi? Parce que Les chrétiens savent qu'ils vont ressusciter d'entre les morts, comme tous les hommes d'ailleurs, même les non-chrétiens, les chrétiens le savent. Donc la mort est pour nous un sommeil parce que nous savons que la mort va être suivie un jour d'une résurrection, la résurrection de la chair à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura la résurrection générale, le jugement général. Donc nous savons que nous allons ressusciter. Nous savons aussi que la vie ne se termine pas au tombeau, mais qu'après la mort, au moment de la mort, il y a passage du temps à l'éternité, nous passerons dans une autre éternité, soit une éternité de bonheur au ciel, soit une éternité de malheur en enfer. Le purgatoire étant une exception dans le temps. Donc, il appelle la mort des chrétiens sommeil parce qu'il annonçait leur résurrection. Mais de même qu'il y a une différence entre ceux que nous voyons tous les jours dormir et s'éveiller, que les mêmes images ne se présentent pas eux dans le sommeil, les uns ont des songes agréables, les autres en ont d'affreux. Pour montrer justement que certains vont se réveiller dans la joie, certains vont se réveiller dans le malheur. Ceux qui se réveillent dans la joie, c'est ceux qui meurent en état de grâce. Ceux qui se réveillent dans le malheur sont ceux qui se réveillent dans l'état de péché mortel. Ainsi donc, chacun s'endort du sommeil de la mort et se réveille avec une cause du jugement qui lui est propre. Notre Seigneur Jésus-Christ va venir éclairer d'un seul coup notre vie. Et c'est la résurrection, c'est le jugement particulier. Au moment où notre Seigneur Jésus-Christ arrive pour nous juger, d'un seul coup, nous allons voir notre âme telle que Dieu la voit lui-même, soit lumineuse, pleine de beauté par la grâce sanctifiante, soit malheureusement hideuse, défigurée par le péché et l'appartenance aux démons. Passons aux versets 17 à 27. Jésus vint donc et trouva que Lazare était depuis déjà 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, environ 15 stades. Beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Et dès que Marthe eut appris que Jésus venait, elle alla devant de lui, mais Marie était assise dans la maison. Marthe dit donc à Jésus, « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. » Jésus lui dit, « Votre frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant, qui est venu dans ce monde. » Il y a deux versets importants là, dans ces passages, le 25 et le 27. Le 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Une plus belle formule qui indique la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie éternelle parce qu'il est Dieu. Et ensuite, verset 27, je crois que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant qui est venu dans ce monde. Une magnifique profession de foi de Sainte Marthe. Donc Sainte Marthe, je vous l'ai dit, faire une espèce de reproche à notre Seigneur, verset 21, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais tout de suite, elle va soumettre sa volonté à celle de son maître. Je sais que maintenant encore, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Et notre Seigneur ne va pas révéler tout de suite son intention de ressusciter Lazare. Donc elle va croire qu'il va parler de, quand il dit « Votre frère ressuscitera », qu'il parle en fait de la résurrection de Lazare, son frère, à la fin des temps. Ça, elle y croit. Mais non, notre Seigneur Jésus-Christ veut le ressusciter ici-bas même, sous les yeux des Juifs et des pharisiens. Alors, voyons un petit peu, premier point, la signification des 4 jours, ce verset 17. Jésus vint donc et trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. On peut expliquer ces 4 jours, page 3 en bas de la page, de plusieurs manières différentes, car une même chose peut avoir diverses significations. Le péché que l'homme reçoit avec la transmission de la vie est un premier jour de mort. La transgression de la loi naturelle est un second jour de mort. Le troisième, c'est le mépris de la loi écrite que Dieu a donnée à Moïse. Et enfin, la violation de la loi de l'Évangile est 4e jour de mort. Donc, il y a d'abord une mort, si vous voulez, introduite par... Il y a plusieurs morts. Il y a la mort physique, qui est la séparation entre le corps et l'âme, par laquelle on passera tous. Puis il y a une mort spirituelle, qui est beaucoup plus grave, qui est le passage de l'état de grâce à l'état de péché mortel, qui n'est pas une mort absolue, parce qu'on peut toujours retrouver l'état de grâce par un acte de contrition parfaite ou une bonne confession. Et il y a une troisième mort, c'est la mort éternelle. Et la plus grave, c'est la troisième. Et c'est ça le drame du monde moderne, c'est que le monde moderne se craint énormément la mort physique. par laquelle on passera tous, et fait tout des pieds et des mains pour essayer de la supprimer complètement. L'homme moderne veut devenir éternel. Dans les changements de pièces, on espère que l'homme va atteindre l'immortalité. Mais l'homme moderne, qui craint tant la mort physique, ne craint plus du tout la mort éternelle. Il s'en fiche complètement. Et donc, nous, catholiques, il faut faire attention à ça. Donc, c'est le péché que l'homme reçoit avec la transmission de la vie, qui est le premier jour de, premier jour de mort. Donc là, c'est une allusion au péché originel. Donc le péché originel est le péché de nature avec lequel tous les hommes naissent. Puis il y a un deuxième péché, transgression de la loi naturelle, second jour de mort. Ça, ce sont les péchés qui vont être commis par l'individu après la naissance. Transgression de la loi naturelle. La loi naturelle, c'est la loi éternelle inscrite dans notre âme. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir qu'on ne peut pas voler, ni tuer, ni mentir. C'est inscrit dans notre loi catholique, dans notre système de vie et de mort, dans notre nature humaine. Troisième point, c'est le mépris de la loi écrite que Dieu a donnée à Moïse, donc les dix commandements. Et enfin, la violation de la loi de l'Évangile, le quatrième jour de mort. Donc, ce passage de Lazare dans le tombeau depuis quatre jours représente les différentes étapes des péchés des hommes. D'abord le péché originel, puis tous les péchés qui vont être commis contre la loi naturelle, puis les péchés commis contre la loi écrite par Moïse, puis enfin les péchés commis contre la loi de l'Évangile. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ ne dédaigne pas de venir pour ressusciter de semblables morts. Quel que soit le niveau de corruption dans lequel nous sommes, notre Seigneur Jésus-Christ peut venir nous ressusciter d'entre les morts. Ici une belle phrase d'Alcuin, mon père, qui disait: le premier péché qui a existé, c'est l'enflure du cœur, donc l'orgueil. Le second, c'est le consentement. Le troisième, l'acte. Le quatrième, l'habitude. Donc lorsque le péché rentre dans une âme, eh bien ce péché va augmenter les dégâts. Au début, il rentre comme péché véniel parfois, puis le péché véniel va devenir, dans certains cas, péché mortel de malice. Et le péché mortel de malice, eh bien il va devenir péché mortel péché véniel d'abord, puis péché mortel de faiblesse, deuxième étape, puis troisième étape, péché mortel de malice. Et bien, ça représente justement que tout ce qu'un homme peut faire dès que notre Seigneur Jésus-Christ l'abandonne. Il se retrouve dans l'obscurité, là il va tomber dans toutes les formes de péchés possibles et imaginables. Et donc, l'ouverture de l'âme au péché, c'est l'enflure du cœur, c'est-à-dire l'orgueil. Ensuite, on donne le consentement à cette désobéissance, et on commet le péché. Et ensuite, on tombe dans le vice, c'est-à-dire la répétition du péché qui va entraîner le vice. Donc, quatre étapes: l'orgueil, l'enflure du cœur, le consentement au péché, l'acte du péché et l'habitude du péché. On voit très bien que lorsque le démon rentre dans une âme, qu'est-ce qu'il veut ? Mais il veut que l'âme enfonce ses racines de plus en plus profondément pour ne plus pouvoir se revenir en arrière. Or, notre Seigneur, on va bien voir ça avec les... Surtout avec ce qu'il y a en page 4, je commence un peu à expliquer aujourd'hui, mais en page 4, il y a des choses magnifiques des pères de l'Église sur les différentes résurrections commises par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a ressuscité trois personnes différentes. Donc on va voir un petit peu tout ça, et chaque résurrection manifeste une autre puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir tout ça. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va parler avec Marthe. Et elle ne lui dit pas: je vous prie de ressusciter mon frère, car comment pouvait-elle savoir qu'il serait utile à son frère de ressusciter? Elle se contente de dire au Seigneur: je sais que vous pouvez le faire, et si vous le voulez, ce n'est pas à moi, c'est à vous seul qu'il appartient de juger qu'il est utile de le faire. Donc elle se soumet à la volonté divine. Ça qui est magnifique dans ce témoignage de Sainte Marthe. Et que Sainte Marthe, justement, par son humilité, est devenue plus tard le symbole de la mère de famille. Sainte Marie-Madeleine, le symbole de la femme contemplative, et Sainte Marthe, le symbole de la vie active. Toutes les mamans qui ont beaucoup, beaucoup d'occupations avec une famille nombreuse, justement, devraient souvent invoquer Sainte Marthe, parce qu'elle a conservé son union avec notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'elle devait faire le service, et donc est toujours dans l'occupation. Donc, Sainte Marie-Madeleine, le symbole de l'âme contemplative, Sainte Marthe, le symbole de l'âme active. Il faut les deux. Il faut balancer, équilibrer la contemplation par l'action et équilibrer l'action par la contemplation. Voici donc l'explication des paroles du Seigneur, du Sauveur. Celui qui croit en moi, fait-il mort, vivra dans son âme jusqu'au jour où son corps ressuscitera pour ne plus mourir. Car la vie de l'âme, c'est la foi. Donc la première vie de l'âme, c'est la foi. Deuxième vie de l'âme, c'est l'espérance. La troisième vie de l'âme, c'est la charité. Chaque fois, on augmente dans la pénétration de Dieu. Donc l'âme, qui est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu par l'intelligence et de posséder par la volonté, va augmenter, si vous voulez, cette âme va augmenter dans son intensité de luminosité par rapport à Dieu, va augmenter sans cesse, parce que la foi va augmenter. Au début, la foi est grosse comme un grain de sénévé, puis petit à petit va devenir un arbre gigantesque. Alors, passons la page 4. Il ajoute, quiconque vit de la vie du corps et croit en moi, quand bien même il viendrait à perdre pour un temps cette vie du corps, il ne mourra point pour toujours. Donc la vraie vie, c'est la vie surnaturelle. La vraie vie, c'est la vie de l'âme. Donc craignons, nous dit notre Seigneur, ceux qui peuvent faire du mal à l'âme, et ne craignons point tant ceux qui peuvent faire du mal au corps. On le voit très bien aujourd'hui dans le monde moderne, comment les politiciens de tout poil, de toute tendance, qui gouvernent hélas la France aujourd'hui, n'ont qu'une idée en tête, c'est de pousser les habitants du pays dont ils dirigent les pousser vers le péché. On voit que c'est clair et net chez Macron, chez Mélenchon, chez tous ces gens-là. Ils n'ont qu'une idée en tête, pousser les gens dans les pattes du démon. Pousser les gens dans les pattes du monde. Pousser les gens dans les pattes du péché. Alors, voyons un petit peu maintenant ce que représente la mort de Lazare. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ va ressusciter trois personnes. Une jeune fille, donc la fille, j'ai oublié de vérifier, je crois que c'est la fille du chef de la synagogue. Un jeune homme, le fils de la veuve de Naïm, et Lazare. Et donc on va voir avec les pères, j'en ai déjà parlé dans d'autres circonstances, on va voir avec les pères ce que représentent ces trois résurrections et les différences. Les particularités de chaque résurrection, ces trois résurrections sont différentes. Parce que la jeune fille, Dieu va donner l'ordre, levez-vous, et il va la ressusciter sur son lit de mort, là où elle est morte, dans la chambre de la maison. Au contraire, pour le fils de la veuve de Naïm, donc notre Seigneur va arrêter les porteurs. Le corps est déjà dans le cercueil, il a quitté la maison mortuaire dans laquelle est morte le jeune homme, et il est porté déjà vers le cimetière. Troisième étape, c'est Lazare, et là, il est déjà dans le tombeau. On va voir ensemble ce que représentent justement ces choses-là. Donc celui, en haut de la page 4, celui qui est enterré depuis 4 jours est le pécheur habitudinaire, c'est-à-dire celui qui a déjà l'habitude du péché. Et plus on attend, après c'est ça la gravité du péché, quand on commet un péché mortel, si on se confesse immédiatement, le péché mortel a peu de chance, de temps, pour percer des racines profondes dans le cœur. Donc c'est relativement facile de s'en sortir. Bon. Mais si on attend, le péché va devenir d'abord ce qu'on appelle un péché mortel d'habitude, puis un péché mortel beaucoup plus ancré dans l'âme, ce qu'on appelle un péché mortel qui est devenu un vice. Donc on va passer d'un acte isolé à un acte répété, le péché d'habitude, et un acte habituel qui va être répété constamment. Donc là, c'est le vice. Et plus on attend, plus c'est difficile. Rappelez-vous cette image qu'on trouve chez les pères de l'Église. J'ai déjà expliqué plusieurs fois dans plusieurs sermons, je la répète ici parce que j'y pense maintenant. C'est ce maître des novices dans un couvent qui explique aux petits moignons, aux petits postulants, ce qu'est la vie spirituelle et la lutte contre le péché. Il compare justement, il explique aux moines, aux petits moines, aux postulants, que l'âme est comme un jardin, qu'il faut maintenir cette âme en parfait état. Et donc tous les matins, tous les soirs, il faut passer comme un bon jardinier, il faut passer dans les différentes allées du jardin et vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent. Et dès qu'on en trouve une petite, on l'arrache tout de suite pour que tout soit propre. Et donc pour expliquer ça, le lendemain et le matin, il part dans le jardin du monastère avec le petit moine. Et puis il s'arrête devant une petite mauvaise herbe qui faisait 3-4 cm de haut. Puis il demande à un moine de l'arracher, pas de problème. Et il prend ses deux doigts, il tire la mauvaise herbe vers le haut, ça s'arrache tout seul. Ensuite, il va un peu plus loin et puis il tombe sur un petit arbrisseau qui faisait déjà 1 mètre de haut. Et puis il dit au moine, arrachez ça. Et donc là, ils sont obligés de s'y mettre à deux pour arracher l'arbrisseau parce que la racine est déjà beaucoup plus profonde. Puis ensuite, il va plus loin dans le jardin du monastère et puis il y a un début de forêt là, qui pousse, et donc un arbre qui fait déjà 2-3 mètres de haut. Et donc il dit au moins, essaye d'arracher cet arbre. Et là, ils sont obligés de s'y mettre à 5 ou 6 pour arriver, avec beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de travail, de sueur, arriver à l'arracher. Et puis, après, ils rentrent dans la forêt, dans la clôture, avec les moines, et puis ça là devant un énorme chêne centenaire. Puis il dit, arrachez ça. Les moines ils disent, on ne peut pas, c'est beaucoup trop gros. Et le moine explique, voilà, voyez, notre âme, c'est comme un jardin. Tous les matins, il faut passer, tous les soirs, il faut repasser pour enlever les mauvaises herbes. Ça présente des mauvaises pensées qui ont germé dans la bonne terre. Le démon est passé et a déposé des mauvaises graines. Donc il faut les arracher tout de suite. Si on les arrache quand les tentations sont toutes petites, c'est facile à faire. Mais si on attend, plus on attend, plus c'est dur, parce que les racines vont s'enfoncer. Et si on attend plus longtemps, le péché véniel va devenir péché mortel d'abord de faiblesse, puis péché de mortel d'habitude, puis péché mortel de vice. Et à ce moment-là, devient indéracinable humainement parlant. On va se retrouver devant la chaîne énorme, on ne va plus rien faire. Donc voilà ce que disent les pères en haut de la page 4. Celui qui est enterré depuis 4 jours est donc le pécheur habitudinaire, c'est-à-dire le pécheur qui commet des péchés répétés, des péchés d'habitude. Qui meurt dans le péché est enterré avec lui. Son état a dépassé la possibilité de guérison sans aucun espoir de pardon de vie spirituelle. Pourquoi il n'y a plus de possibilité de pardon, de guérison de vie spirituelle dans celui qui est mort avec un péché, avec des péchés d'habitude? Tout simplement parce que les péchés d'habitude sont déjà ici, dans ce cas-là, des péchés mortels. Donc celui qui est mort dans l'état de péché mortel, ne peut plus revivre la grâce. C'est plus possible. Parce qu'il est mort. Donc il est passé déjà du temps à l'éternité. Qui dit éternité dit absence de temps. Il n'y a plus de possibilité de passer de la puissance à l'acte. Il n'y a plus de mouvement possible pour quelqu'un qui est dans l'éternité. Donc une fois qu'on est passé dans l'éternité, il n'y a plus de changement possible. Et si on est mort comme pécheur habitudinaire, on garde malheureusement cette haine du Christ pour toute l'éternité en enfer. Donc les pères vont expliquer le symbole de ces 4 jours. Notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Qu'au premier jour, le pécheur tombe dans le consentement de la volonté. Donc il donne d'abord le consentement par la volonté. Puis le deuxième jour, le pécheur complète le péché. Oui, on voit la progression du mal dans notre âme. Le pécheur complète le péché en acceptant de plus en plus. Troisième jour, il répète le même péché sans cesse. Il devient un pécheur d'habitude, ce qu'on appelle un habitudinaire. Il est beaucoup plus difficile d'enlever les péchés qui sont devenus des péchés d'habitude. Enfin, au quatrième jour, il est tombé dans l'obstination et le péché devient pour lui une seconde nature. Là, c'est le vice. On est passé de l'habitude au vice. Et donc, quand on passe du simple péché mortel au péché d'habitude, au péché de vice, troisième étape, la racine du péché s'est enfoncée dans l'âme de façon considérable et après, pratiquement humainement parlant, devient absolument irrécupérable. Donc, les pères commentent en disant, on commence par le désir, puis la coutume, puis la nécessité, une chaîne se forme ainsi et le pécheur tombe dans un dur esclavage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on attend, plus c'est difficile, plus la racine du péché s'enfonce dans l'âme et après devient inexpugnable. Et on était esclave de notre Seigneur Jésus-Christ, esclave volontaire. On va devenir esclave du démon, mais esclave involontaire. C'est qu'on ne pourra plus rien faire. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, on est esclave volontairement. On se donne volontiers à notre Seigneur Jésus-Christ. On se donne tout entier à son âme, à l'âme divine, à la volonté divine. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mais si notre Seigneur Jésus-Christ quitte l'âme, on va tomber dans le péché et à ce moment-là, on va changer de chef. On suivait Dieu par amour, on va être obligé de suivre le démon par obligation. C'est ça qui est terrible quand on pense à la mort de ceux qui meurent en état de péché mortel. Si quelqu'un meurt en état de péché mortel, eh bien, il va mourir en état de péché mortel. Il va mourir avec cet état de haine de Dieu. Et comme après la mort, on ne peut plus changer, parce que pour changer, il faut du temps, il faut des grâces, il faut l'usage de notre liberté. Après la mort, il n'y a plus ni temps, ni grâce, ni usage de notre liberté, on ne peut plus changer. Mais ce pécheur qui est tombé dans le dur esclavage du démon peut, par la grâce de Dieu, sortir du tombeau. Lazare, sortez dehors. Cette parole est très importante. Lazare, sortez dehors. Cette parole, Lazare, sortez dehors, montre le pouvoir de Dieu sur le pécheur. Lazare, sortez dehors, c'est vraiment le symbole, évidemment, de l'absolution du prêtre. Ego te absolvo peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque, justement, on donne l'absolution, on oblige le démon à sortir. Le prêtre a un pouvoir sur le démon et qu'il va exercer notamment par l'absolution. Et donc, c'est vraiment ça. C'est extraordinaire d'ailleurs de voir parfois des âmes qui viennent toutes courbées par le poids du péché, par le poids des mauvaises habitudes. Ils viennent se confesser, on fait parfois des kilomètres et des kilomètres. Ils ont ce désir de faire une bonne confession, mais ils sont en quelque sorte écrasés, comme quelqu'un qui porterait un sac à dos 70 kilos de pierre. Il est écrasé par ce poids. Et puis il se met péniblement à genoux devant le prêtre, « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. » Et puis il commence à accuser tous leurs péchés les uns après les autres. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, par le prêtre, dit « Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez en paix et ne péchez plus », d'un seul coup, le sac se vide. Le sac se vide et l'homme se relève. Et j'ai vu des gens transformés physiquement, c'est extraordinaire, surtout pendant les retraites. Dans la retraite, on prépare les confessions générales pendant 2 jours et demi. En 2 jours et demi, l'âme se prépare à recevoir l'absolution sacerdotale. Et j'ai vu des âmes changer, des corps, des personnes littéralement changer presque physiquement par l'absolution. D'un seul coup, ils vont retrouver la paix. Surtout dans les cas un peu particuliers, mais qui arrivent, hein. De gens qui ont vécu un peu comme des patachons pendant longtemps, qui ont vécu loin du bon Dieu, ou surtout des gens qui ont caché des péchés graves, ça peut arriver hélas, en confession pendant longtemps. D'un seul coup, ils sortent ces péchés. « Monsieur l'abbé, ce péché, je l'ai commis il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Je ne l'ai jamais accusé en confession. J'ai fait 10 ans, 20 ans, 30 ans de péché, de communion sacrilège et de confession sacrilège. Et là, je l'accuse. » Et avec humilité, ils expliquent ce qu'ils ont fait. Parfois, avec des vraies larmes. Ils ont le don des larmes. Et au moment où le prêtre donne l'absolution, « Je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », l'âme est comme libérée du péché et retrouve une joie extraordinaire. Et il faudrait parfois presque prendre une photo de la personne qui vient se confesser, une photo de son visage, et la même photo quelques minutes après la confession. Il a retrouvé la paix. Ça y est, il s'est déchargé de tout son péché. Et nous ne sommes pas des protestants qui croient que les péchés sont toujours là, mais que le bon Dieu se contente de les couvrir de son sang. Alors on avait un sac de 70 kilos de péchés à porter, mais le bon Dieu est venu, puis avec son sang, il a badigeonné ses péchés, de 70 kilos de péchés qui étaient dans notre cœur, dans notre sac à dos, et puis il a badigeonné ça de son sang. Alors allez en paix, vos péchés n'existent plus, parce que vous croyez que je suis mort pour vous sur la croix. Oui, mais les péchés sont toujours là, puisque les pierres sont toujours là. C'est ça qui est terrible chez les protestants, parce qu'ils ne peuvent pas se confesser. Ils ne peuvent pas tomber, ils ne peuvent pas enlever ces pierres dans leur sac. C'est pour ça que les protestants, il y a une froideur chez les protestants, terrible. Et un découragement, justement, terrible, précisément à cause de tout ça. Donc, oui, on voit deux choses. Donc, d'abord, le désir qui se met, lorsqu'on met le bout de notre doigt dans la bouche du démon, puis la coutume va arriver. Puis la nécessité du péché, la chaîne se forme ainsi, le péché devient de plus en plus grave. D'abord le péché intérieur, puis le péché extérieur, puis le péché d'habitude, puis le vice. Une chaîne se forme ainsi, le pécheur tombe dans un dur esclavage. On devient esclave de celui que l'on sert. Mais ce pécheur, par la grâce de Dieu, sort du tombeau. Lazare sortait dehors. Au moment précis où Dieu donne cet ordre, Lazare sortait dehors. À ce moment-là, c'est la paix qui revient. Donc ce Lazare sortait dehors représente justement l'absolution sacerdotale, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie, la mort spirituelle à la vie spirituelle, provoquée par l'absolution sacerdotale. C'est ça la grandeur de la confession. C'est une grande tristesse de voir tous ces prêtres modernes. Parfois, je parle un peu, quand j'ai certaines occasions de parler avec eux, ils ont cette tristesse parce qu'ils confessent pratiquement plus. Ils me disent d'ailleurs, parfois ils m'ont dit, oui, on ne confesse plus, on ne confesse plus du tout. Vous savez, moi je confesse presque tous les jours. Et nous, on ne confesse plus. Parfois, quelques confessions de personnes âgées pour pas, mais on ne se confesse plus. Les gens ne se confessent plus chez nous. Ils leur demandent, mais dites donc, le dimanche à la messe, quand ils viennent à votre messe, là, Ils communient tous. Ah oui, bien sûr, tout le monde communie. Donc, il y a de moins en moins de confessions, de plus en plus de communions. Ben oui. Mais ça veut dire mathématiquement qu'il y a de plus en plus de communions sacrées. Je vois ce que ça veut dire. Et donc, vous dites rien, vous faites rien. C'est ça qui est terrible. Et j'ai connu des prêtres qui étaient au bord du désespoir de se rendre compte qu'ils ne pouvaient plus rien faire, qu'ils n'arrivaient plus à obtenir le pardon des péchés parce que les gens venaient plus se confesser, ne venaient plus chercher ce pardon des péchés. Voilà, donc on continuera cette page 4 qui est très belle, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire là-dessus. J'étais un peu vite dans la première partie parce que c'est un peu moins riche, mais là, page 4, il y a beaucoup de choses qui viennent des pères de l'Église. Donc nous allons terminer par une prière. Je voulais aussi dire que j'ai plusieurs annulations des retraites. Et donc, la retraite de septembre est pleine, mais j'ai encore une place pour la retraite d'octobre. La dernière retraite de l'année, du 3 au 8 octobre. Donc, s'il y en a qui m'écoutent sur Internet, qui sont intéressés, venez me prévenir le plus vite possible. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.